I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a, avec la vengeance, un rapport tout à fait singulier. Dans la vraie vie, c'est mal, mais au cinéma, ça peut parfois être très bien. Et c'est donc avec un intérêt tout particulier que nous accueillons ici les Revenge Movies, catégorie dans laquelle on peut ranger sans problème celui qui va nous occuper aujourd'hui, Message from the King de Fabrice Duvels, dont on va causer avec les quatre vengeurs à peine masqués de la critique réunie ici à l'antenne Paris. Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut Thomas.
Yannick Daron, bonjour Yannick.
Salut.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
C'est nos ciné, épisode 85. Et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Message from the King, c'est l'histoire de Jacob, incarné par Chadwick Boseman, connu notamment pour appartenir au vaste et pénible univers Marvel, au sein duquel il porte le costume de T'Challa, la panthère noire, qui fera l'objet d'un film solo l'an prochain. Normalement, on jugera sur pièce. Bref, Jacob donc débarque d'Afrique du Sud à Los Angeles à la recherche de sa petite sœur, dont il n'a plus de nouvelles, et pour cause, elle est morte, assassinée après avoir sombré dans la drogue. Mécontent comme on le serait à moins, Jacob décide de retrouver les coupables et de leur mettre la misère.
It's Bianca. She's got a brother.
You told me Bianca was not a problem anymore.
She was my sister.
Ce message from the King, messieurs, qu'en avez-vous pensé, Rafik?
Bah, déjà, tu m'as spoilé le film. Moi, je savais pas que sa sœur était morte.
Ah, c'est fou.
Mais non, mais on l'apprend quand même pas dès la première scène, quoi. Donc ça reste un spoiler.
C'est un spoiler quand même. Bon, c'est dans les bandes annonces.
Non, effectivement, c'est un revenge movie d'un type peut-être un peu particulier, puisqu'il appartient à une nouvelle branche qu'on appellerait le artsploitation, c'est-à-dire de films d'exploitation qui visent vers le cinéma d'art et essai. Le producteur du film était déjà derrière Drive et le film de Chazelle Whiplash.
Oui.
Et donc voilà, Drive était déjà cette tentative de faire cohabiter un peu ces deux univers-là. Donc on a un film qui est dans la droite lignée du film de John Boorman, notamment Le Point de Non-Retour, voilà, avec cette idée d'un type qui avec ses deux petites mains va défoncer toute une organisation mafieuse.
C'était déjà un film d'arrêt, enfin qui avait un côté arrêt.
Qui était déjà arrêt de l'exploitation, mais sauf que c'est les années 60, tout le monde a oublié que ça existait, ce cinéma-là. Voilà, qu'on a revu dans Payback avec Mel Gibson. Donc on est dans cette optique. Un petit côté film de vidéoclub aussi, hein, avec voilà, ça reste une intrigue resserrée. Duvels avoue, lui, avoir pas mal suivi la trame, pas la trame narrative, mais la trame émotionnelle du film de Schrader Hardcore, qui était un petit peu voilà, ce père qui partait à la recherche de sa fille qui avait disparu dans le milieu du porno. Donc voilà, c'est le personnage de Boswick a une vision fantasmée de sa sœur, une sorte de rêve d'innocence qu'on voit régulièrement dans des flashbacks gamines. Et on découvre avec lui l'espèce d'enfer dans lequel elle a plongé en arrivant dans cette ville de tous les vices qu'est Los Angeles. Un Los Angeles qui pour moi était assez inédit, parce que je le vois, on le voit vraiment avec le regard d'un étranger. C'est-à-dire que ça se voit que Duvels ne vit pas dans cette ville-là et qu'il l'a découverte sur place. Il la filme pas du tout dans ces grandes allées désertiques que Michael Mann, par exemple, a popularisé. Au contraire, on est dans une ville extrêmement chargée. On a presque l'impression parfois d'être dans certains quartiers tokyoïtes plus que Los Angeles, avec des maisons qui sont les unes sur les autres. Et enfin, la dernière chose qui m'a beaucoup plu personnellement, c'est d'avoir, j'ai jamais été, je l'avoue, un fan du polar, et j'ai bien aimé l'idée que le film dérive plus vers le western urbain, en fait.
Julien.
C'est un excellent film, et ce qui est très touchant, je trouve, chez Fabrice Duvels, c'est que c'est un cinéaste qui a un univers qui lui est propre, qui a une voix qui lui est propre, et qui, malgré tout, essaye toujours de se de se plier au genre, de se mettre des contraintes. C'est comme si il n'est pas centré sur lui-même en tant qu'auteur, il essaye de s'ouvrir. Et ça, je trouve que cette démarche est très sensible en fait, dans Message from Viking, et très touchante. Je trouve aussi qu'il se plante de temps en temps, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a l'ingérence des studios, il y a le film manque parfois un peu de cohérence, il y a des plans qui font un peu tâche, qui ne semblent pas venir de lui et qui ne viennent probablement pas de lui, des plans aériens notamment, des choses un peu trop explicatives, oui, ouais. Qui sont un peu dommages. Je pense que le film aurait gagné à se passer de tout ça en fait, pour gagner sa cohérence, mais il n'empêche que le film est là, ça reste un Fabrice Duvel, ça c'est mineur, surtout après Alléluia, qui est pour moi son meilleur film à ce jour. Mais c'est un bon petit film d'exploitation en fait. Rien que pour ça, c'est un très beau film, et c'est un bon petit film d'exploitation, comme finalement on n'en voit pas beaucoup, j'ai l'impression, des films de vengeance comme ça aujourd'hui, assez radicaux, assez droits dans leurs bottes. Et c'est un film aussi qui est, malgré l'ingérence des studios, malgré toutes ces contraintes, habité. C'est-à-dire qu'on sent qu'il s'est investi dans les personnages, on sent qu'il a de l'affection pour eux, on sent qu'il s'est profondément identifié au personnage de Jacob King, et qu'il a essayé d'adopter son regard, en tout cas qu'il a essayé d'insuffler son propre regard au personnage de Jacob King.
Stéphane ?
Ouais, le truc en fait, alors c'est peut-être préciser ça. Moi, ce que j'aime, en tout cas, ce que j'aime beaucoup chez Fabrice Duvel, c'est à la base, en fait, c'est un cinéaste qui est capable de jouer énormément avec les ruptures de ton. J'avais jamais vu ça comme ça, mais par exemple, son premier film Calvaire, qui pour moi était pas forcément un film d'horreur, mais un vrai drame d'horreur à proprement parler. En fait, lui, il voit avec ça comme Laurent une comédie. Lucas. Ouais, il voit ça comme une comédie noire. Et ce qui fonctionne aussi, hein, ce qui explicite, oui. Ce qui explique pourquoi il y a Jackie Berroyer, par exemple, dans son film, ça. Et le truc, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a perfectionné ça jusqu'à Alléluia. En fait, ces ruptures de ton qui, moi, je trouve, fonctionnent énormément. Et c'est peut-être un peu ce qui m'a manqué dans ce film-là. Et en lui posant la question, on lui a demandé, on lui a dit, mais c'est des choses que tu as essayé. Oui, c'est des trucs en fait qu'il a pu vraiment essayer de mettre dans le film, mais qui lui ont effectivement été ensuite coupés au montage, quoi. Donc du coup, on reste un film. Alors moi, ce que je trouve une des qualités, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé là, enfin Julien et Rafik n'en ont pas parlé, mais c'est la lumière du film que je trouve à tomber par terre, quoi, qui est vraiment voilà. Et ça, c'est quand même un truc qui est très très travaillé chez lui. Hein. Il a pas révélé Benoît Déby, puisque Benoît Déby avait déjà fait Irréversible, mais bon, il a certainement aidé à le mettre sur la map avec Calvaire, quoi, et Vignane. Non, là, c'est pas Déby,
c'est une Polonaise qui s'appelle Monika Lenczuska.
Voilà, c'est ça, ouais.
C'est a priori le premier long métrage. Elle avait déjà fait un long métrage qu'il avait vu, mais il n'a pas été séduit forcément par le long métrage, il a été séduit par ses photos.
Ah, c'est portfolio.
Portfolio sur son site internet, et notamment ses photos de ville, en fait.
Ouais. Voilà. Et le truc, en fait, il y a cette lumière qui incarne énormément, moi, je trouve, le film, en fait, c'est un des chocs pour moi du film, c'est un des trucs que j'aime le plus, quoi.
Tourné en 35 mm.
Voilà, c'est un film qui est tourné en 35 mm parce que c'est
ça a été imposé.
C'est Duvel qui l'a imposé au producteur.
Imposé au studio. Ouais.
Dans une économie de film, en fait, qui est un petit film, hein, c'est un film à 8-10 patates, c'est pas parce qu'il y a la star de Black Panther que c'est un gros film, hein, ça reste un petit truc, quoi. Nous, on a de la chance parce que le film sort en France, c'est le seul pays au monde dans lequel il sort, donc voir ça en salle dans une projection adéquate, c'est quand même cool, parce que pour le reste du monde, c'est sur Netflix. Netflix qui a acheté le film. Et moi, l'autre truc que j'aime bien, en fait, alors il y a deux éléments que j'aime bien, c'est effectivement, comme tu disais, il y a ce regard de l'étranger sur la ville, mais il y a aussi, en fait, l'idée d'utiliser toutes les grosses couches sociales, en fait, de la ville, parce que c'est quand même une ville assez étonnante, en fait, Los Angeles. Il y a le pire côtoie le meilleur, vraiment. Et quand je dis le pire et le meilleur, c'est plus le très pauvre côtoie le très riche, avec des séparations très spécifiques. C'est plusieurs villes dans une ville, plusieurs couches sociales, comme dans toutes les villes dans l'absolu, mais qui sont vraiment remises à niveau et repensées, quoi. Et du coup, t'as évidemment cette approche qui est classique, mais qui, je trouve, fonctionne bien. C'est que l'humanité est vraiment dans les bas-fonds et l'horreur est vraiment dans les beaux quartiers. Quoi. Il y a cette espèce de truc.
Surtout que le script insiste aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on nous répète plusieurs fois que le mec a débarqué à Los Angeles avec $600 en poche. Mm. Donc ça reste toujours... on a toujours ça à l'esprit, que ce type, il est dénudé, en fait. Mm. Il n'a rien, il n'a pas d'armes. Et donc, il va se confronter à quelque chose de... qui semble tentaculaire. On ne sait pas exactement à quelle puissance de feu a cette organisation dans laquelle il s'engouffre. Et l'aplomb qu'il met à y aller, c'est là où le film vraiment joue la carte du western. C'est quand la première séquence où il a repéré ce qui était probablement les macros, on ne sait pas trop, de sa sœur, et qui va les confronter. Il est devant 6 ou 7 gars qui sont en train de jouer au poker. Et lui, il n'a rien. Il est juste debout. Il leur pose la question avec son accent étranger qui lui rajoute encore une faiblesse.
Il vient de loin. D'un pays,
et alors que les mecs font semblant de rien savoir en regardant leur jeu de cartes, lui, il est en train de les dévisager les uns après les autres. Enfin, on a tout un jeu typique de western, de saloon qui se met en place et qui rend le personnage très vulnérable.
Et il a la chance d'avoir un acteur très charismatique, hein, parce que ça, je veux dire, Chadwick Boseman, je pense que la plupart des gens l'ont découvert avec Captain America 3. Enfin, moi, je sais que je ne crois pas l'avoir vu avant là-dedans et je ne suis pas été frappé par,
Fortitude, il était formidable.
J'ai pas vu. Mais là, en fait, voilà, c'est un charisme débordant, moi, je trouve assez bien exploité, quoi, et du coup, parce que c'est quand même une figure principale. Il est au milieu. Et surtout, il y a, ce n'est pas que justement dans les scènes, on va dire, entre guillemets, viriles, dans les échanges viriles, c'est aussi dans les petites séquences. Moi, par exemple, il y a la scène de la... Tu as spoilé la mort de la sœur, mais justement, la scène où il va à la morgue et qu'il se retrouve en face d'un comment dire...
Un cadavre défiguré, oui.
Non, mais du type qui lui fait des blagues...
D'un légiste.
Légiste qui lui fait des blagues jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est le cadavre que l'autre cherche et qui lui dit, mais dis-moi que c'est pas le bon, dis-moi que c'est pas le bon cadavre, en fait, et que l'autre répond toujours pas, en fait, qu'il reste... de marbre et tout, il y a une humanité, un fonctionnement qui ressort dans les deux cas, dans ce personnage à côté qui est vraiment un petit personnage qui sert, enfin vraiment un tout petit, enfin un petit rôle quoi, un tout petit rôle, et en même temps qui humanise le personnage de Chadwick Boseman, et ça le, enfin voilà, c'est il y a un vrai fonctionnement là-dedans, il y a un vrai truc touchant qui appartient pas uniquement à la star, qui appartient pas uniquement au scénario, mais qui appartient vraiment à la façon de voir la ville, en fait. Je pense qu'il y a moi, je vais poser la question à Duvel sur ce personnage. Est-ce que c'est toi qui l'a... Non, c'était dans le scénar. Mais je suis sûr qu'il y a un truc de la façon d'aborder le personnage, la façon de le faire jouer. Je suis sûr qu'il y a un truc qui est typiquement, pour le coup, qui vient de Duvel, en fait, plus que du scénar à proprement parler.
Ça me semble Yannick. Super clair, en fait. Je reviens juste vite fait sur... Parce que tout le monde, c'est marrant, tout le monde, on parle comme... un revenge movie, art exploitation, même si un côté art et essai. Alors moi, j'ai pas vu Alléluia, donc c'est pas, malheureusement, je l'ai pas encore vu. C'est donc pas mon référent chez Duvel, ce qui est vraiment plutôt calvaire. Mais déjà calvaire, moi à l'époque, je le regardais pas vraiment ni comme un film d'horreur, ni comme une comédie noire, comme lui le dit. Moi, tout de suite, j'ai eu le sentiment que ce mec-là est existentialiste jusqu'au bout des tu vois, et que vraiment, c'était ce qui le drivait, tout ce final de calvaire dans cette nature un peu fantastique, indéfinie, qui surplombe ce qui vient d'arriver à tous ces gens-là. C'est une thématique classique, c'est des symboliques classiques. Et juste pour que les gens se plantent pas, parce que c'est un film, évidemment... vendu de manière boum boum, tu vois, on l'entend dans le truc, ça a l'air d'être du pur film d'exploitation. Non, c'est pas du tout ça. On est vraiment, alors, pour le coup, dans un revenge movie existentialiste, là encore, assez lent, assez contemplatif, avec une mise en scène extrêmement sur les visages des personnages. Donc, ça joue aussi sur la contextualisation du récit, parce que la ville, on la voit pas tant que ça en plan large. On est vraiment resserré sur ces persos-là. Moi, c'est pas un film que je trouve passionnant en termes d'écriture. C'est une commande, donc j'aime beaucoup Duvel, donc c'est pas une critique que je lui fais, mais je trouve qu'au final ça se ressent. Et donc, comme on en parlait avec Stéphane, et je trouve que sa formulation était très juste, c'était de dire c'est ce qu'il a fait de cette commande de Duvel, ce qui est intéressant dans le récit. C'est pas le récit en lui-même. On a déjà vu des revenge movies comme ça, pléthore, des plus intéressants en termes même thématiques, en termes d'écriture. Effectivement, vous m'avez fait penser à un truc tous, parce que avec cette façon de parler de la ville, de parler de perso, ce que disait Rafik sur l'étranger, ben en réalité, ça m'a... C'est vraiment ça, en fait, moi, que je trouve fascinant. Alors, je ne veux pas faire de la surinterprétation lourdingue et facile, hein, à la conne, mais
Mais pour le coup, sur ce film-là, c'est pas simplement Duvels l'étranger qui vient faire son premier film américain, c'est Duvels, je viens de le percuter hein, maintenant, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est Duvels qui fait son premier film américain, mais que ça fait flipper. Et qu'en réalité, c'est comme si il va vers ce qu'il sait, une très belle mise en scène, une façon de s'intéresser à la psychologie des acteurs. Et d'ailleurs, les rares défauts du film, moi, il me l'a confirmé. Toutes les choses que je n'aime pas dans le film, c'est les choses qui lui ont été imposées. Mmh. Que ce soit la musique, les flashbacks qui surlignent, plein de petits trucs qui voulaient...
Certaines punchlines.
Voilà, ouais. Certaines punchlines qui, tout d'un coup, nous feraient marrer dans un Steven Seagal, si tu veux, mais qui n'ont strictement aucune... qui n'ont pas leur place ici et qui lui ont été imposées. Mais il y a vraiment ce côté... un peu apeuré, c'est comme si c'était bah, je vais me planquer derrière Jacob King. Alors Jacob King, c'est mon héros de western, comme tu dis, Rafik, et je trouve que ça, c'est très très juste, mais que tu te dirais, Duvels, il est derrière, et puis il a un peu peur, il attend de voir comment il va réagir. Et il y a vraiment...
Surtout qu'il est confronté à un producteur. Hein,
oui, voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ça, tu le ressens. Et d'ailleurs, tu le ressens, et c'est ça que moi, j'ai aimé dans le film. C'est-à-dire qu'au-delà de son rythme assez languissant, finalement, attention, on n'est pas du tout dans de l'exploitation badass, méga cool. Même la scène finale n'est pas une scène jouissive dans ce genre de film-là.
C'est pas spécialement violent.
Non, c'est pas d'abord spécialement violent, et puis c'est plutôt très douloureux, le final.
C'est pas violent, mais les accès de violence, justement, du fait du caractère contemplatif, c'est-à-dire que tu sors d'une longue scène d'échange entre le héros et Teresa Palmer, la sa voisine, voilà, où tu es vraiment, là, pour le coup, dans de la RSC, c'est deux âmes solitaires à Los Angeles, en train de partager un moment de vie existentielle. Et dans la scène suivante, il va quand même prendre une chaîne de vélo pour défoncer
des gueules. Non, mais bien sûr, il est peu fréquent dans le film. Attends, je finis juste le truc que je disais, après je vous laisse débattre. Le petit truc, c'était la scène du début. La scène du début... À l'arrivée à l'aéroport, qui est comme ça. Ou au moins, ce qui m'a plu le plus, c'est ça. C'est arriver à créer une tension. Et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus parce que je me disais, créer une tension. Et pourtant, ce personnage, et c'est la force du film, c'est qu'il est hyper intriguant. On ne sait rien sur le perso. Et sans rien spoiler, on sait qu'il y a une révélation au final qui nous apprend qui il est. Mais au départ, on ne sait pas qui il est. Et du coup, moi, j'étais dans une logique de revenge movie à me dire, bon, ben, on va voir comment il va réagir. Et puis, j'étais assez déstabilisé de sa réaction face aux autorités, face à tout ça. Et du coup, je suis en train de me dire, il y a vraiment voilà, cette tension qui est créée par genre, comment cette peur du réalisateur, ce mec où on ne sait pas. Et ça, c'est assez
particulier. C'est un truc, tu parles du moment, par exemple, où ils sont à la douane.
Oui, c'est ça.
C'est étonnant parce que c'est un truc, quand tu vas aux États-Unis, c'est un truc que tu vis en fait.
Oui,
toi-même, quand tu arrives dans ce pays plus spécifiquement,
c'est comme si c'était le regard de l'étranger qui se mettait à filmer son film alors qu'il n'est jamais allé aux États-Unis. Jamais. Alors que Duvels, il a sans doute fait sa prépa, tu vois, au moins, à défaut d'y être allé avant. Et t'as vraiment ce truc-là.
Je vais spécifier un truc là par rapport à ce que Rafik disait, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect contemplatif dont tu parles et tu t'as cité cette scène où ils sont dans un diner, ils se regardent dans le blanc des yeux, puis après t'as le moment où il va défoncer les mecs avec une chaîne de vélo. Enfin, faut préciser que c'est pas Drive non plus en fait, c'est-à-dire que parce que ça, quand la façon dont tu le présentes,
c'est moins poseur.
Voilà, c'est la façon dont tu le présentes en fait, justement, c'est beaucoup plus organique que ça pour moi. Dans cette façon, le truc Drive, c'est qu'on peut dire que c'est plus graphique en termes de violence, mais c'est aussi beaucoup moins incarné que Message from the King. C'est ça le truc en fait. Et le truc, c'est que du coup, dans Message from the King, c'est peut-être pas violent, on va dire, en termes visuels, mais par contre, moi j'ai le souvenir par exemple, qui est justement quand il attrape le mec avec la chaîne de vélo, c'est pas la scène en soi qui est violente, c'est pas les coups, mais c'est le type qui est en train de suffoquer, qui est en train de souffrir et qui commence à cracher des
Mais en fait, je pense que aussi ce qui nous rattache, tu parles d'organique, et je pense que c'est à travers la mise en scène que ça se met en place, contrairement à un Drive qui fait de la. Entre guillemets, de la belle image. Là, ce qui intéresse vraiment Duvels, j'ai l'impression, c'est les états mentaux de son personnage. C'est-à-dire que j'ai remarqué, en regardant des extraits après avoir vu le film, que dans les scènes de confrontation, on était souvent dans des longues focales qui les isolaient sur un décor flou, par exemple. Là où, quand le personnage de King est seul avec lui-même, on est plus dans des gros plans, mais en courte focale, avec une photo un tout petit peu plus chaleureuse. Et on a encore un autre travail photographique pastelisé sur ces flashbacks qui fait qu'on passe sans arrêt de son état mental à lui, c'est-à-dire état mental de confrontation avec l'autre, de confrontation avec lui, de confrontation avec son souvenir, etc. Et je pense que c'est ça qui fait que ça paraît plus organique et moins poseur.
Julien. Aussi un autre détail qui n'en est pas un, qui distingue ce film-là, je trouve, de Drive, c'est la galerie de personnages secondaires qui... dont on, finalement, on n'a pas énormément parlé ici, mais je pense à un personnage comme celui que joue Nathalie Martinez, par exemple, que je trouve absolument fascinant et qui est quelque part très californien en fait, hein, dans son mode,
tragiquement californien.
Mais voilà, mais c'est super. Et ils sont tous, enfin, il y en a plein comme ça, même Luke Goss, même Molina et tout. Et il y a une, dans les détails en fait, c'est-à-dire que dans le projet global, c'est peut-être un film qui est un peu bâtard sur certaines choses, qui n'est pas totalement accompli. Mais par contre, dans les détails, c'est extrêmement satisfaisant. Il y a plein de petits personnages, et jusqu'au personnage de Teresa Palmer, qui est extremement touchant.
Et pour rebondir complètement sur ce que
tu dis. Et on conclura là-dessus.
Non, mais c'est juste qu'on a oublié un élément qui semble fondamental, parce que ce qui nous perturbe aussi, parce qu'il y a des choses imposées par le studio, mais il y a des choses qui ont été coupé par le studio. Et c'est vrai que c'est un mec, il nous l'a dit, je veux dire, Duvel, c'est un type qui a envie de creuser la question amoureuse, qui a vraiment envie de creuser l'intimité, toute la complexité de la relation amoureuse. Et je pense que ce récit, aussi bateau, entre guillemets, puisse-t-il être dans ses mécaniques narratives, l'intéresser à travers la figure du personnage que vient de dire Rafik, et c'est exactement ça, un personnage énigmatique, très mental, où on ne sait pas, où on doit deviner, et la relation qu'il est censé avoir avec le second personnage féminin du film, qui est réduit à peau de chagrin dans le film actuel, et que Duvel voulait profondément approfondir, excusez-moi, voilà, mais voilà, mais c'est exactement ça qu'il voulait faire, et il était extrêmement frustré qu'on lui ait coupé ces séquences-là. Et moi, je pense que le film hybride aujourd'hui aurait eu cette histoire d'amour plus appuyée. On n'aurait pas dit c'est un film de revanche ou d'exploitation. On aurait dit c'est une histoire d'amour avec des mécaniques de film de revenge movie. Et là, ça aurait été probablement un bien plus grand film.
Peut-être qu'on le verra un jour, ce film-là. Peut-être, espérons.
Non, apparemment, non.
Il n'y aura pas de directeur.
Eh bien, tant pis. Avant de se quitter, messieurs, on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations quand même. On peut rester dans le revenge movie ou le film d'amour, Yannick, tu as le droit aussi. On peut prendre des libertés. On n'est pas au bagne. Tiens, d'ailleurs, Yannick, tu vas commencer.
Ah, tu m'emmerdes.
Ah ouais, je sais, ouais.
Alors, comme je n'ai pas de film d'amour comme ça qui me vient à la tête, eh ben, moi, je vais parler d'un film que je suis sûr que mes comparses détestent absolument à cette table et qui est un revenge movie qui m'a toujours fait marrer, moi. Donc, si vous avez jamais vu. Allez regarder Death Sentence. Moi j'aime bien Death Sentence de James Wan. J'ai toujours bien aimé.
Moi aussi.
Ça tombe bien. Avec Kevin Bacon, qui pour le coup est à mon avis l'antithèse de ce que je voulais faire en Fabrice Duvel, qui est du pur revenge movie bis,
Craspec,
mais qui fonctionne très bien et qui est assez jouissif.
Très bien, Julien. Donc tu peux pas faire Death Sentence.
Moi je vais rester avec Duvel. Je vous conseillais son premier. Premier ou son deuxième court-métrage, en fait. Quand on est amoureux, c'est merveilleux. On peut le voir sur le DVD de Calvert. C'était proposé en bonus. Et quand on suit la carrière de Duvel, c'est notamment sur tout le rapport amoureux dont parlait Yannick tout à l'heure. C'est un complément quasiment nécessaire, en fait, je trouve. C'est débutant, c'est mal dégrossi sur certaines choses, c'est un peu grossier, mais c'est vraiment fascinant et je trouve que c'est une clé pour décoder son cinéma qui, parfois, peut être un petit peu difficile à décrypter.
Stéphane ?
Rafik a cité le film tout à l'heure, même si je ne pense pas que ce soit une référence pour Duvel forcément, là, mais c'est le Payback de Brian Helgeland, dont j'ai peut-être déjà parlé dans cette émission, je ne sais plus.
On a déjà parlé de Payback.
Voilà, et je vais en remettre une couche du coup, parce que peut-être les gens n'ont pas. Mais oui, c'est vrai, on avait fait une émission sur Legend.
Oui.
Et effectivement, je voulais. Parce que moi, c'est un. Effectivement, le Revenge Movie, comme ça, le Polar Hard Boy, c'est un genre que j'aime beaucoup, contrairement à Rafik. Et du coup, voilà, mettre un peu l'accent sur ce Payback, de nouveau, en fait, qui existe dans deux versions différentes. Quoi. Il y a la version sale qui était sortie à l'époque, qui est, on va dire, le montage de Mel Gibson, puisque le studio lui avait demandé de reprendre le film et de le repenser dans certains trucs. Et il y a le montage qui s'appelle Straight Up, qui existe dans un Blu-ray américain, sous-titré français, pour ceux qui veulent le récupérer en import. Ça coûte, à mon avis, ça coûte plus rien. Tu peux avoir ça pour moins de 10 balles. Et qui est un director's cut. Alors, Mitch, parce que c'est un film qui a été fait, c'est un director's cut qui a été remonté presque 10 ans après la sortie du film. Qui reprend en fait la vraie volonté de Helgeland, c'est-à-dire d'aller mener le perso jusqu'au bout de son comment dire, parce que c'est un personnage qui est très buté, qui veut absolument récupérer son argent, qui ne veut pas entendre en fait qui est les autres, quoi.
Qui l'amène au bout de sa logique.
Et voilà, qui l'amène au bout de sa logique, donc j'en dirai pas plus, quoi. Moi, j'aime les deux versions du film, en fait. Les deux ont leurs qualités et leurs défauts. En tout cas, moi, je trouve un film passionnant à voir, pour les bonus aussi qui expliquent ce qui s'est passé. Et parce que, même si Helgeland et Duvel sont probablement les mêmes références, c'est-à-dire les Don Siegel, les mecs comme ça, etc., etc., c'est dans les deux cas, en fait, des films en fait, qui partent sur des choses complètement différentes, en fait. Donc voilà. Et moi, Vraiment, Payback, c'est un des films où tu me le mets, je peux le regarder sans problème. Quelle que soit la version, je peux le revoir tout de suite. C'est hyper ludique. Voilà.
Non, mais c'est vrai, il y a un autre.
Rafik.
Ben moi, j'ai cité tout à l'heure, justement, avant de citer Payback, c'est-à-dire le film originel, Le point de non-retour de John Boorman, qui est un film extrêmement, comment dire, expérimental et parfois très abstrait, mais qui met en scène ce gars qu'on a, cet assassin qu'on tient pour mort, qui revient miraculeusement, on ne sait pas pourquoi, bon, on comprend qu'il est déjà mort, mais enfin, que c'est une espèce de fantôme, et qui s'en prend donc à toute une pègre, pratiquement toute la pègre de Los Angeles, d'une façon ultra méthodique, avant qu'on réalise progressivement que derrière cette pègre, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on s'attend à trouver un caïd, un boss de faim, quelque chose d'humain, et en fait, ça n'est qu'une machine. Et donc, la confrontation entre ce monstre et cette machine donne au film toute son excuse et toute l'attitude pour être extrêmement abstrait et expérimental, et avec des plans qui sont restés dans l'inconscient collectif, même si le film n'a pas forcément été vu, parce que beaucoup de lieux qui ont servi de tournage ont été revus des milliards de fois ensuite dans le polar. Et puis là, cette espèce de, comment dire, de c'est pas les égouts, mais c'est ce long canal qui court le long de Los Angeles et dans lequel on a vu des milliards de films.
Et puis c'est intéressant parce que c'est ce que tu disais, Rafik, sur ce côté, il n'y a rien derrière. C'est une métaphore du système. C'est assez génial. Il parle de système, il parle d'organisme. Genre, le début du film, c'est quand même, je m'en rappellerai toujours, moi, ça m'a marqué ce début avec simplement le type, il dit une cellule. Puis tu sais pas, puis après il te dit une cellule de prison. Et d'entrée, il annonce la couleur sur l'expérimentation.
Et après, aussi expérimental soit le film, il y a quand même quelques scènes de pur, comment dire, hard-boiled.
Quand Lee Marvin se met en colère, il a...
Et t'as la scène où Lee Marvin traverse le couloir comme ça, hyper décidé, qui est un truc qui a été repris dans tous les polars.
Lee Marvin, putain, Lee Marvin, les mecs, quoi.
On revient toujours à Lee Marvin, voilà, c'est très bien. Mais allez quand même voir Message From The King, parce que comme l'a dit, je ne sais plus qui, je crois que c'était Yannick ou Stéphane, il n'y a qu'en France qu'on peut le voir au cinéma.
Il y a qu'en France qu'on peut le voir.
Oui, et puis rattraper les films de Duvel, ce que vous n'avez pas vu, notamment Alléluia,
Calvaire et Alléluia.
Oui, je sais que c'était pour moi, je vais le rattraper.
Et voilà, faites-le. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Clément à la Technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez grâce à iTunes, soyez des choux. Laissez-nous, si le cœur vous en dit, un commentaire et surtout une pluie d'étoiles. Enfin, 5 étoiles, ce sera déjà bien. Ça nous aide beaucoup, c'est vrai. Et en vous remerciant d'avance, on vous dit à très vite.